Section 5. Le soulagement de l'humanité souffrante. Quelle activité débordante déployait le Christ! Jour après jour, on pouvait le voir entrer dans d'humbles foyers où des gens vivaient dans la misère ou la tristesse et y apporter l'espérance et la paix. Les pauvres et les malades étaient l'objet de sa tendre sollicitude. Les enfants, attirés par la sympathie qu'il leur témoignait, l'affectionnaient particulièrement. Par des propos aimables, très simples, il dissipait leurs malentendus. Souvent il les prenait sur ses genoux et leur parlait de manière à gagner leur cœur. Le Seigneur demande à son peuple, aujourd'hui, d'accomplir une œuvre médicale missionnaire semblable à la sienne. Avec tendresse, humilité, il allait partout, faisant le bien, nourrissant ceux qui avaient faim, encourageant ceux qui étaient abattus, consolant les affligés. Aucun de ceux qui venaient à lui n'en repartait déçu. Il ne donnait pas l'exemple du moindre égoïsme. Il vivait la vie qu'il aurait voulu voir vivre par tous ceux qui croyaient en lui. Sa nourriture et son breuvage consistaient à faire la volonté de son Père. À tous ceux qui réclamaient son secours, il communiquait la foi, l'espérance et la vie. Il répandait sur tous ses précieuses bénédictions. Voici le message que le Sauveur nous adresse. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chapitre 14. Sur les pas de Jésus. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, verset 2. Le Christ, notre modèle dans le ministère médical, pendant 3 ans, les disciples avaient eu le merveilleux exemple du Christ. Jour après jour, ils marchaient et parlaient avec lui, écoutant ses paroles réconfortantes adressées à ceux qui étaient fatigués et chargés, et voyant les manifestations de sa puissance en faveur des malades et des affligés. Lorsque vint pour lui le temps de les quitter, il leur donna le pouvoir de faire ce qu'il avait fait. Il leur dispensa sa grâce en disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Il devait aller dans le monde, répandre la lumière de son évangile d'amour et de guérison, et accomplir le même travail que lui. C'est aussi l'œuvre qui nous incombe. Il nous faut, avec sympathie et compassion, secourir ceux qui sont dans le besoin, chercher à soulager les malheurs de l'humanité. L'influence de cette œuvre est irrésistible, et nous serons richement bénis en l'accomplissant. C'est ainsi que nous gagnerons des âmes au Rédempteur. Le côté pratique de la mission du Sauveur est une démonstration de la puissance de l'Évangile. Cette œuvre exige de notre part un effort laborieux, mais elle en vaut la peine, car c'est par elle que sont sauvées les âmes qui périssent. Grâce à son influence, des hommes et des femmes seront amenés à la croix du calvaire. L'homme a un corps à sauver, aussi bien qu'une âme. Les deux doivent recouvrer la santé par des méthodes simples mais efficaces, réclamant des hommes et des femmes intelligents. En acceptant la vérité, les âmes verront la nécessité d'une préparation pour les devoirs de la vie. Lorsque la santé du corps est retrouvée, les facultés mentales sont capables de saisir les grandes vérités de l'Évangile. S'occuper d'abord des besoins temporels. Ceux qui souffrent, les déshérités, à quelque classe qu'ils appartiennent, sont notre prochain, et lorsque nous connaissons leurs besoins, notre devoir est de les secourir autant que possible. Dans la parabole du bon samaritain, un principe que les disciples du Christ feront bien d'adopter est mis en relief. Occupez-vous d'abord des besoins temporels, soulagez les misères physiques, et le chemin des cœurs s'ouvrira. Vous pourrez alors y répandre la bonne semence de la vertu et de la religion. Un monde à sauver. Ne perdons pas de vue qu'il y a un monde à sauver, et que nous devons participer à cette grande œuvre en tant que collaborateurs du Christ. Il est la tête, nous sommes sa main droite. Il désire que par l'œuvre médicale missionnaire, nous déchargions les opprimés du lourd fardeau sous lequel ils succombent. Ne fermez pas les yeux aux misères qui vous environnent, ni vos oreilles aux cris de détresse qui ne cessent de monter vers le ciel. Le Christ est le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Il est venu pour relever et encourager les affligés et ceux qui sont dans la détresse. C'est à cette tâche qu'il nous convie. Suivre les pas de Jésus dans le domaine de la pauvreté. Beaucoup estiment que ce serait pour eux un grand privilège que de visiter les lieux mêmes où le Christ a vécu ici-bas, de fouler le sol qu'il a foulé, de contempler le lac de Génézareth sur les rives duquel il se plaisait à enseigner, de voir les collines et les vallées où ses yeux se sont souvent posés. Mais il n'est pas nécessaire de se rendre à Nazareth, à Capernaum ou à Béthanie pour suivre les empreintes des pas de Jésus. Nous les trouvons au chevet du malade, dans la cabane du pauvre, dans les artères populeuses des grandes villes, partout où il y a des cœurs à consoler. En se conduisant comme Jésus lorsqu'il était ici-bas, nous suivons l'empreinte de ses pas. L'évangile qui soulage la souffrance, l'œuvre médicale missionnaire apporte à l'humanité la bonne nouvelle qui soulage la souffrance. C'est l'œuvre primordiale de l'évangile, sa mise en pratique, la compassion du Christ révélée. Cette œuvre est des plus nécessaires et le monde y est très sensible. Le Seigneur nous donne l'assurance que son importance sera comprise et que de nouveaux champs de travail s'ouvriront immédiatement devant elle. Commencez dans votre voisinage. En tant que réformateur, il faut qu'il, le peuple de Dieu, marche dans la lumière. Or, l'œuvre médicale ouvrira devant lui de nombreuses portes. Il n'est pas nécessaire d'être appelé dans quelque pays lointain pour faire du bien à ses semblables. Où que vous soyez, vous pouvez commencer immédiatement. De nombreuses occasions s'offrent à vous. Acquittez-vous d'abord du travail qui doit être fait dans votre foyer et dans votre entourage. Mettez-vous à l'œuvre dans la crainte de Dieu, en vous souvenant que vous êtes responsable devant celui qui est mort pour vous. Agissez comme si le Christ vous appelait personnellement à faire tout ce que vous pouvez à son service. Ne vous inquiétez pas de savoir si d'autres sont prêts à le faire. Si vous êtes réellement consacré, le Seigneur vous emploiera pour amener à la vérité d'autres âmes qui, à leur tour, communiqueront la lumière à une foule de gens tâtonnant encore dans les ténèbres. Tous peuvent se rendre utiles. D'aucuns diront, pour s'excuser, « Mes devoirs, mes enfants réclament mon temps et mes moyens. » Parents, vos enfants devraient vous aider à décupler vos forces et vos capacités au service du Maître. Ce sont les plus jeunes membres de la famille de Dieu. Encouragez-les à se consacrer au Seigneur, auxquels ils appartiennent par droit de création et de rédemption. Qu'ils sachent que toutes les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme sont au divin maître. Qu'ils apprennent à servir dans les différentes branches de l'œuvre. Chacun doit faire de son mieux. Le Seigneur désire que chaque ouvrier fasse de son mieux. Ceux qui n'ont pas eu de formation professionnelle dans une de nos institutions médicales peuvent penser qu'ils ne sauraient faire que très peu de choses. Mais, mes chers frères, souvenez-vous que dans la parabole des talents, le Christ ne représente pas tous les serviteurs comme en ayant reçu le même nombre. L'un en reçut 5, un autre 2 et un autre encore 1. Si vous ne disposez que d'un talent, employez-le sagement, faites-le valoir. Un seul ne peut pas faire autant que plusieurs, mais chacun doit accomplir tout ce qu'il peut pour combattre la maladie et la détresse qui abondent dans notre monde. Montez au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel contre les puissances des ténèbres. Dieu désire que chacun de ses enfants possède l'intelligence et la connaissance, afin que, avec une clarté et une puissance implacables, sa gloire soit révélée dans notre monde. Ouvriers avec Dieu. Un aspect important de l'œuvre de Dieu est révélé par ces mots, missionnaire médical. Être un missionnaire médical signifie être ouvrier avec Dieu. L'œuvre médicale missionnaire, œuvre qui doit apporter un grand secours et une grande force à la cause, doit être poursuivie avec tous les soins et toute la sagesse nécessaires. Dans cette œuvre, que rien ne vienne compromettre le beau modèle que le Seigneur désire en faire. Proclamez la vérité aux malades comme aux bien portants. Le ministère évangélique comprend la proclamation de la vérité aux malades comme aux bien portants. Il combine l'œuvre médicale missionnaire avec le ministère de la parole. Grâce à ces deux agents, des occasions sont offertes pour communiquer la lumière et présenter l'évangile à toutes les classes et à tous les niveaux de la société. Dieu désire que les prédicateurs et les membres d'Église s'intéressent vivement à l'œuvre médicale missionnaire. Prendre les gens où ils sont, quelle que soit leur position ou leur condition, voilà le ministère évangélique. Ceux dont le corps est malade ont presque toujours l'esprit malade, et quand l'âme est malade, le corps l'est aussi. Le chapitre 58 d'Ésaïe contient la vérité présente pour le peuple de Dieu. Nous avons ici un aperçu de la combinaison de l'œuvre médicale missionnaire et du ministère évangélique dans la proclamation du message au monde. La responsabilité d'accomplir une œuvre de miséricorde et de bienfaisance repose sur ceux qui observent le sabbat de l'Éternel. L'œuvre médicale missionnaire doit aller de pair avec le message et être scellée du sceau de Dieu. Nord, sud, est, ouest, pourquoi n'a-t-on pas compris que l'œuvre médicale missionnaire est un accomplissement de ces paroles de l'Écriture ? Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est là une œuvre que les églises du nord et du sud, de l'est et de l'ouest doivent entreprendre. L'occasion de s'acquitter de ce travail leur a été donnée. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait ? Cette mission doit être remplie. Ce travail aurait dû être entrepris. Ceux qui se sont engagés dans l'œuvre médicale missionnaire ont accompli l'œuvre même que le Seigneur aurait réalisée à leur place. Que de choses restent encore à faire ? Et dire qu'un grand nombre de croyants qui pourraient employer leurs talents ne font presque rien dans ce domaine. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais le bras de l'Éternel n'est pas raccourci, et s'ils veulent travailler aujourd'hui dans sa vigne, il acceptera leur service. Être équilibré. L'œuvre médicale missionnaire doit être accomplie par l'Église grâce à des efforts bien organisés. Elle est à la cause de Dieu ce que le bras droit est au corps. Mais il ne faut pas qu'elle prenne une importance à laquelle elle n'a pas droit. Qu'on l'accomplisse sans négliger les autres branches de l'œuvre. L'œuvre du bras droit. Le bras droit ouvre les portes par lesquelles le corps doit passer. Il en est ainsi de l'œuvre médicale missionnaire. Elle ouvre largement la voie pour la réception de la vérité présente. Que serait un corps sans bras ? Si l'on honore le corps, il faut aussi honorer les bras, dont l'importance est telle que sans eux, le corps serait incapable de rien faire. C'est pourquoi le corps qui traite indifféremment le bras droit, refusant son aide, ne saurait rien accomplir. Une partie d'un grand tout. L'œuvre médicale missionnaire aurait toujours dû exister dans l'œuvre de réforme. Mais elle ne doit jamais être un moyen de détourner les prédicateurs de leur ministère. Le Christ unit ces deux branches dans tous leurs travaux. L'œuvre médicale missionnaire fait partie d'un grand tout, comme le bras fait partie du corps. Mais le bras ne dira pas à la tête « Je n'ai pas besoin de toi ». Le corps ne peut se passer de la tête ni des bras pour accomplir une œuvre efficace, offensive. Le corps ne doit pas devenir le bras. Chaque membre du corps a un travail déterminé. La prière du missionnaire médical. Les pasteurs et les professeurs doivent œuvrer intelligemment, chacun dans sa sphère, et apprendre aux membres d'église à faire un travail missionnaire médical. Lorsque ceux qui se disent disciples du Christ posséderont le Sauveur dans leur cœur, ils feront ce qu'il a fait lui-même. Ils ne pourront rester inactifs. La besogne ne leur manquera pas. Et ce qu'ils font sous les auspices de l'Église sera la meilleure façon de communiquer la lumière. Celui qui travaille selon le plan de Dieu prononcera cette prière. Que l'on sache en ce jour, alors que j'accomplis mon œuvre en faveur de l'humanité souffrante, qu'il y a un Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que l'on voit que je travaille, non selon ma propre impulsion ni ma propre sagesse, mais selon ta parole. Lorsque l'homme adopte cette attitude, comprend qu'il opère selon le plan de Dieu et que Dieu opère par lui, il possède la divine puissance qui ne connaît pas d'échec. Tout ce qui pourrait s'y opposer ne compterait pas plus que la balle qu'emporte le vent. Ce sera la vie pour les églises. Je dirai à mes frères dans le ministère, poursuivez cette œuvre avec tact et intelligence. Mettez au travail les jeunes hommes et les jeunes femmes de vos églises. Combinez l'œuvre médicale missionnaire avec la proclamation du troisième message. Organisez-vous pour réveiller les églises du sommeil de la mort dans lequel elles sont plongées depuis des années. Suscitez des ouvriers qui feront ressortir devant chaque famille et chaque individu les principes de la réforme sanitaire en rapport avec le message du troisième ange. Encouragez tout le monde à prendre part à cette œuvre en faveur du prochain. Vous verrez bientôt que la vie renaîtra dans les églises. Chapitre 15. Le ministère médical dans les foyers. La porte d'entrée des foyers, l'œuvre médicale missionnaire et l'œuvre qui fraye le chemin de l'Évangile, la porte d'entrée qui permet à la vérité pour notre époque de pénétrer dans de nombreux foyers. Le peuple de Dieu doit comprendre de véritables missionnaires médicaux, car il faut s'occuper à la fois de l'âme et du corps. Que nos ouvriers fassent preuve du plus pur désintéressement. Grâce à la connaissance et à l'expérience acquise par la pratique, ils pourront donner des traitements aux malades. En se rendant de maison en maison, ils trouveront accès à de nombreux cœurs. Plusieurs seront ainsi gagnés qui, autrement, n'auraient jamais entendu le message évangélique. Le Christ nous guidera dans ce ministère. Si vous vivez en communion avec le Christ, si vous vous chargez de son joug, vous apprendrez chaque jour comment proclamer le message de paix et de réconfort aux affligés, aux désappointés, aux cœurs brisés. Vous pourrez parler aux découragés de la parole de Dieu et intercéder pour les malades. En priant, adressez-vous au Christ comme à un ami. Ayez la dignité douce et aimable d'un enfant de Dieu. Il faut que l'on s'en rende compte. Le ministère chrétien du médecin et de l'infirmière. Puissent tous les malades être traités par un médecin et une infirmière ayant la crainte de Dieu, qui les aideront à confier leur corps fatigué aux soins du grand guérisseur, avec la foi qu'il les rétablira. Chaque croyant sincère s'incline devant Jésus comme étant le vrai médecin des âmes. Lorsque le Sauveur se tient au chevet des malades, beaucoup sont non seulement convertis mais guéris. Si, grâce à un travail judicieux, le patient est amené à donner son cœur à Jésus, soumettant ses pensées à la volonté de Dieu, une grande victoire sera remportée. L'infirmière au foyer. Le Seigneur désire que des hommes et des femmes consacrés exercent la vocation de garde-malade. Il y a bien des moyens de se rendre utile dans ce travail. Au sein des familles, ils peuvent chercher à éveiller un intérêt pour la vérité. Un peu partout, un grand nombre de gens n'assistent à aucun service religieux. Si on veut qu'ils connaissent l'Évangile, il faut le leur porter chez eux. On ne peut souvent les atteindre qu'en adoucissant leurs maux physiques. En soignant les malades et en soulageant la misère des pauvres, les infirmières auront l'occasion de prier avec eux, de leur lire des passages de la parole de Dieu, de leur parler du Sauveur. Elles pourront aussi intercéder pour les déshérités, pour ceux qui n'ont pas la force de volonté de dominer leur appétit, que la passion a dégradé. Elles apporteront un rayon d'espérance dans la vie de ceux qui ont perdu tout espoir. Un amour désintéressé, manifesté par des actes de bonté, permet plus facilement de croire à l'amour du Christ. Apprenez aux gens à se bien porter. L'œuvre missionnaire médicale offre bien des occasions de se rendre utile. L'intempérance dans la manière de se nourrir, l'ignorance des lois de la nature, causent de nombreuses maladies, privant ainsi le Seigneur de la gloire qui lui revient. Dites aux gens qu'il vaut mieux savoir conserver sa santé que de soigner une maladie. Il faut que nous soyons de sages éducateurs, qui mettent en garde contre toute indulgence. Devant tous les maux physiques qui sont dus à l'ignorance, comment ne pas faire notre part pour soulager celui qui souffre? De simples principes que tous doivent connaître. Ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent être de véritables missionnaires médicaux. Il faut qu'ils apprennent à soigner les maux de l'âme et du corps. Qu'ils sachent comment donner de simples traitements qui contribueront beaucoup à soulager la souffrance et à guérir la maladie. Il est indispensable qu'ils soient familiers avec les principes de la réforme sanitaire, afin de pouvoir montrer aux autres comment, par de bonnes habitudes dans le manger, le boire et le vêtement, on peut prévenir la maladie et recouvrer la santé. Une démonstration de la valeur des principes de la réforme sanitaire contribuera énormément à supprimer les préjugés à l'égard de notre œuvre évangélique. Le grand médecin, le promoteur de l'œuvre médicale missionnaire, bénira tous ceux qui iront de l'avant, humblement et avec confiance, afin de répandre la vérité pour notre époque. Une réforme constante est essentielle. Une réforme constante doit se poursuivre parmi le peuple et, par notre exemple, nous devons donner plus de poids à notre enseignement. La vraie religion et les lois de la santé vont de pair. Il est impossible de travailler au salut des hommes et des femmes sans leur présenter la nécessité de rompre avec les excès qui ruinent la santé, souillent l'âme et empêchent la vérité divine de faire impression sur l'esprit. Hommes et femmes doivent apprendre à se corriger soigneusement de leurs mauvaises habitudes et abandonner immédiatement tout ce qui pourrait nuire à la santé de leur corps et obscurcir leurs esprits. Enseigner les principes d'une cuisine saine, les avenues de l'âme ayant été obstruées par le tyran que l'on nomme préjugé, Beaucoup ignorent les principes d'une cuisine hygiénique. On rendra à ces gens-là un excellent service en leur enseignant comment préparer des aliments sains. Cette branche de l'œuvre est aussi essentielle que n'importe quelle autre. Il faut organiser davantage de cours de cuisine et aller de maison en maison donner des instructions sur l'art de cuire de bons aliments. De très nombreuses personnes seront ainsi délivrées de leur déchéance physique, mentale et morale par l'influence de la réforme sanitaire. Ces principes seront les bienvenus pour ceux qui cherchent la lumière, et il leur sera plus facile de comprendre la vérité pour notre temps. Dieu désire que nous recevions pour donner. Comme des témoins impartiaux, désintéressés, nous devons faire part aux autres de ce que le Seigneur nous a accordé. En vous livrant à ce travail et par tous les moyens dont vous disposez, assurez-vous que vos efforts tendent à dissiper les préjugés au lieu de les créer. Faites de la vie du Christ votre étude constante. Travaillez comme il le fit, suivez son exemple. Nous avons besoin de recevoir une véritable éducation dans l'art culinaire. Organisez des cours où vous pourrez enseigner comment cuire du bon pain et comment faire différentes combinaisons de grains et de végétaux. Suivez un cours qui recommande la réforme. Un certain nombre de vues préconisées par les adventistes du septième jour sont diamétralement opposées à celles du monde. Ceux qui défendent des vérités impopulaires et les croient supérieures à toutes les autres doivent chercher à être conséquents avec eux-mêmes. Leur but n'est pas d'essayer de voir à quel point ils diffèrent d'autrui, mais de savoir comment arriver à trouver ceux qu'ils veulent influencer pour les amener à pratiquer ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Un cours de ce genre fera apprécier les vérités qu'ils défendent. Ceux qui préconisent une réforme dans le régime doivent, par ce qui paraît sur leur table, présenter sous leur meilleur jour les avantages de l'hygiène et mettre en évidence ses principes, de telle façon que ceux-ci se recommandent au jugement d'un esprit candide. Lorsque ceux qui se font les avocats de la réforme sanitaire tombent dans les extrêmes, il ne faut pas blâmer les gens qui s'en écartent. C'est ainsi que nos idées religieuses sont discréditées et, dans bien des cas, ceux qui nous observent ne peuvent jamais être amenés à l'idée qu'il y ait quelque chose de bon dans la réforme. Ces extrémistes font plus de mal en quelques mois qu'ils ne peuvent en réparer pendant toute leur vie. Ils se sont engagés dans une œuvre que Satan aime à les voir accomplir. Des idées étroites et poussées à l'extrême ont fait un mal incalculable à la cause de l'hygiène. Ne cherchez pas à imposer vos vues personnelles. Ceux qui n'ont qu'une idée imparfaite des principes de la réforme sanitaire sont souvent les plus tenaces, non seulement à maintenir leur point de vue, mais à chercher à l'imposer à leur famille et à leurs amis. Cette réforme tronquée a des effets désastreux sur leur santé. Leurs efforts pour la faire adopter donnent à beaucoup une fausse idée de la véritable et les amènent à la rejeter complètement. Ceux qui ont vraiment compris les lois de la santé évitent les extrêmes. Ils choisissent leurs aliments, non pour satisfaire leur appétit, mais pour fortifier leur corps. Ils cherchent à maintenir toutes leurs énergies dans le meilleur état possible, pour les mettre au service de Dieu et de leurs semblables. Leur appétit est contrôlé par la raison et la conscience, et il en résulte la santé du corps et de l'âme. Ils ne cherchent pas à imposer leurs convictions, mais leur exemple n'en rend pas moins témoignage en faveur de leurs principes. Ils exercent autour d'eux une heureuse influence. Montrons du bon sens dans la réforme sanitaire. Étudions à fond ce sujet. Et d'abord, nul ne doit se permettre de critiquer ceux dont la manière d'agir n'est pas en tout point en harmonie avec la sienne. On ne saurait établir une règle invariable pour tout le monde, et personne n'a le droit de se croire le critère auquel les autres devraient se conformer. Tous ne peuvent manger les mêmes mets. Des aliments sains et appétissants pour les uns seront désagréables et même nuisibles pour les autres. D'aucuns ne peuvent supporter le lait, alors qu'il réussit très bien à d'autres. Il en est qui ne digèrent pas les petits pois et les haricots, tandis que d'autres s'en trouvent très bien. Pour les uns, les préparations de céréales à l'état brut sont excellentes, d'autres ne peuvent en faire usage. Lumière pour le salut du monde, Ceux qui se mettent à enseigner doivent bien connaître la maladie et ses causes, comprendre que chaque fonction du corps humain doit être en harmonie avec les lois de la vie. Pour notre salut et celui du monde, le Seigneur m'a communiqué la lumière au sujet de la réforme sanitaire. Il faut que les hommes et les femmes sachent ce que comprend la demeure humaine, destinée par le Créateur à être le temple où il habite, et dont il veut que nous prenions soin comme de fidèles économes. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ranimez la confiance. Un grand nombre de personnes ne possèdent pas la foi en Dieu et ont perdu confiance dans les hommes, mais elles apprécient des actes de sympathie et de générosité. Lorsqu'elles voient quelqu'un venir chez elles, sans chercher des louanges terrestres ou des compensations, pour donner des soins à un malade, apporter de la nourriture ou des vêtements, consoler les affligés, en attirant les regards sur celui dont il n'est que le messager, alors leurs cœurs sont touchés. La gratitude engendre la foi. Elles se rendent compte que Dieu s'occupe d'elles et elles sont prêtes à écouter sa parole. Beaucoup sont sauvés de la déchéance. Il m'a été montré que l'œuvre médicale missionnaire pourrait découvrir, dans la plus profonde déchéance, des hommes qui étaient autrefois de brillants esprits, richement doués, et les sortir de l'abîme du péché. Après nous être occupés de leurs besoins physiques, il sera possible de leur présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Le Saint-Esprit collaborera avec ceux qui relèvent ces malheureux, qui pourront baser leur foi sur un fondement solide. Il ne s'agit pas d'apporter à ces gens que Dieu aime et dont il a pitié des doctrines étranges, mais de les aider physiquement par des soins médicaux. Leurs énergies spirituelles et mentales reprendront leurs activités, et ces pauvres âmes seront, pour la plupart, sauvées dans le royaume des cieux. Rien ne saurait mieux caractériser notre œuvre dans la présentation de la vérité que de venir en aide aux gens où ils se trouvent, comme le fit le bon Samaritain. Une œuvre bien conduite pour sauver de pauvres pécheurs ouvrira le chemin à la vérité. Un ordre de choses différent doit être établi parmi nous en tant que peuple. Lorsqu'on en arrivera là, il régnera autour des ouvriers une atmosphère tout autre, car le Saint-Esprit collaborera avec ceux qui sont au service de Dieu. Ils seront une puissance pour le Seigneur, en relevant, fortifiant et sauvant les âmes qui sont sur le point de périr. Zèle et persévérance indispensables. Que je serais heureuse si je pouvais réveiller notre peuple pour qu'il s'engage dans l'œuvre médicale missionnaire, avec un saint zèle et une divine persévérance, non en quelques endroits seulement, mais partout. C'est là un véritable travail missionnaire. En certains lieux, il semble qu'il ait peu de réussite, mais le Seigneur finit par ouvrir la voie et des succès remarquables couronnent nos efforts. Les paroles prononcées sont un clou enfoncé à la bonne place. Des anges collaborent avec des instruments humains et des pécheurs sont gagnés pour le Sauveur. Dieu appelle des hommes et des femmes, pieux. Il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes consacrés pour faire un travail missionnaire médical. Qu'ils cultivent à l'extrême leurs facultés physiques et mentales ainsi que leur piété. Il faut faire l'impossible pour trouver des ouvriers intelligents. La même grâce que Jésus-Christ fit reposer sur Paul et Apollos et qui les distingua par leur spiritualité, doit reposer aujourd'hui sur de nombreux missionnaires dévoués. N'attendez pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes qui se vouent à ce travail. Vous ne pouvez consacrer des années à vous préparer. Des portes qui sont ouvertes actuellement vont bientôt se fermer pour toujours. Proclamez le message. N'attendez pas que l'ennemi prenne possession des territoires où vous pouvez pénétrer maintenant. Que de petits groupes accomplissent l'œuvre assignée par le Christ à ses disciples. Qu'il travaille comme évangéliste, répandant nos imprimés, parlant de la vérité à ceux qu'il rencontre. Qu'il prie pour les malades, s'efforçant de les soulager, non par des médicaments, mais par des remèdes naturels. Qu'il leur enseigne comment recouvrer la santé et éviter la maladie. Note. Pour plus de détails concernant le ministère médical et la présentation de notre message sur la santé, voir Rayon de santé, Medical Ministry, Counsels on Diet and Food et Counsels on Health. Chapitre 16. Se préparer pour la crise et les désastres des derniers jours. Les événements des derniers jours nous poussent à nous préparer. Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, progressivement mais sûrement. Déjà, plaies et jugements frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamité sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annoncent la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. L'état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les vols et les meurtres se multiplient. Des vies d'hommes, de femmes et d'enfants sont supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le vice sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes. Quelque chose de décisif va bientôt se produire. Notre époque est du plus grand intérêt pour tous les vivants. Les gouverneurs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent une position de confiance, tous les hommes et toutes les femmes qui pensent, à quelque classe qu'ils appartiennent, ne peuvent se désintéresser de ce qui se passe autour d'eux. Ils suivent des yeux l'inquiétude des nations et la pression qu'elles exercent l'une sur l'autre. Ils observent la puissance qui s'empare de tous les éléments terrestres et ils se rendent compte que quelque chose de grand et de décisif se prépare, que le monde est à la veille d'une crise épouvantable. Les anges retiennent en ce moment les vents de la guerre afin de les empêcher de se déchaîner jusqu'à ce que le monde ait été averti du sort qui le menace. Mais une tempête extraordinaire va bientôt se déchaîner sur la terre et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, on assistera à des scènes de révolte indescriptibles. Le temps est proche où le monde connaîtra une douleur que nul ne sera capable de soulager. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Que de fois n'entendons-nous pas parler de tremblements de terre, de cyclones, de ravages causés par des incendies et des inondations, de lourdes pertes de vies humaines et de biens matériels. À vues humaines, ces calamités résulteraient des déchaînements capricieux des forces de la nature, désorganisées et déréglées, échappant au contrôle de l'homme. Mais ce sont des moyens employés par Dieu pour chercher à éveiller chez tous le sentiment du danger qu'ils courent. De grandes villes disparaîtront. Il y a longtemps que l'on aurait dû s'occuper activement de gagner des âmes pour le Christ. Cette œuvre reste en souffrance. Les habitants des villes corrompues, sur lesquelles s'abattront bientôt des calamités, ont été cruellement négligés. Le temps est proche où de grandes agglomérations vont être balayées et tous doivent en être avertis. Mais qui se chargera de cette œuvre qu'un fidèle service pour Dieu exige? Aujourd'hui, on n'a pas fait la millième partie du travail qui aurait dû être accompli dans les villes si hommes et femmes s'étaient acquittés de leurs devoirs. Que le peuple de Dieu ne perde pas de vue la pensée que des milliers de villes, plongées aujourd'hui dans l'idolâtrie, seront détruites. Désastres imminents. Récemment, une scène impressionnante se déroula devant moi. Je vis une immense boule de feu qui tombait sur de belles maisons, les anéantissant instantanément. J'entendis quelqu'un dire « Nous savions que les jugements de Dieu s'abattraient sur la terre, mais nous ignorions que ce serait si tôt. » À quoi d'autres répondirent « Vous le saviez ? Alors pourquoi ne nous en avez-vous rien dit ? Nous, nous l'ignorions. » De tous côtés, j'entendais prononcer de telles paroles. Des troubles graves se produiront bientôt parmi les nations, troubles qui ne cesseront pas jusqu'à ce que le Christ revienne. Comme jamais auparavant, nous avons besoin de serrer nos rangs en servant celui qui a établi son trône dans les cieux et qui règne suprêmement sur tous. Dieu n'a pas oublié son peuple et nous serons forts si nous ne l'oublions pas. Les jugements de Dieu s'exercent sur la terre. Les guerres et les bruits de guerre, les destructions par le feu et les inondations nous disent clairement que le temps de détresse, qui ne cessera de croître jusqu'à la fin, est proche, à la porte. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le monde est saturé par l'esprit de la guerre. Les prophéties du chapitre 11 de Daniel sont presque toutes arrivées à leur accomplissement final. Terreur indescriptible. Vendredi dernier, juste avant de m'éveiller, une scène très impressionnante se déroula devant moi. Il me semblait sortir de mon sommeil, mais je n'étais pas chez moi. De mes fenêtres, je pouvais voir une terrible conflagration. De grandes boules de feu tombaient sur les maisons et de ces boules jaillissaient des flammes dans toutes les directions. Impossible d'éteindre le feu qui était allumé, et de nombreux endroits étaient détruits. La terreur des gens était indescriptible. Puis je me réveillai et me rendis compte que j'étais chez moi. Se préparer tandis qu'il en est temps. Lorsque les libertés de notre nation seront en péril, ceux qui combattent pour la liberté de conscience se trouveront dans une situation défavorable. Pour leur propre sécurité, alors qu'ils en ont l'occasion, ils devraient être intelligents en ce qui concerne la maladie, ses causes, ses mesures préventives et sa guérison. Ceux qui s'engageront dans cette voie trouveront partout un champ de travail. Ils auront partout des souffrances à soulager, des secours à donner, non seulement parmi ceux de notre foi, mais surtout parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité. Prêts à fournir une assistance immédiate, nous connaîtrons des familles qui sont dans la pauvreté et dans la détresse, et il faudra soulager les affligés et ceux qui souffrent. Nous n'avons qu'une faible idée des souffrances humaines qui existent partout autour de nous, mais lorsque nous en avons l'occasion, nous devons être prêts à fournir une assistance immédiate à tous ceux qui passent par des moments difficiles. La main secourable du Seigneur dans le soulagement de la souffrance. L'œuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans le monde et pour purifier son Église. Montrer à chacun qu'il peut devenir l'auxiliaire du Seigneur en collaborant avec lui en vue de restaurer la santé physique et spirituelle. Chaque membre d'Église doit s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Nous vivons à une époque où chaque adventiste devrait faire un travail missionnaire médical. Le monde est un vaste hôpital, rempli des victimes de maladies physiques et spirituelles. Partout des gens se meurent parce qu'ils ne connaissent pas les vérités qui nous ont été confiées. Aussi, les membres d'Église doivent-ils se réveiller et comprendre qu'ils ont la responsabilité de répandre ces vérités. Une porte ouverte dans les grandes villes. En bien des endroits, des âmes n'ont pas encore entendu parler du message. Il faut donc poursuivre l'œuvre missionnaire médicale avec plus de zèle que jamais, car elle est la porte par laquelle la vérité pénétrera dans les grands centres. Il faut que des ouvriers bien formés se rendent dans toutes les villes pour y accomplir un travail missionnaire médical. Dans chaque ville, qu'une équipe d'ouvriers organisée, bien disciplinée, composée non seulement d'un ou deux, mais d'un certain nombre, se mettent à l'œuvre. Chaque église doit y prendre part. L'œuvre médicale missionnaire doit avoir des représentants partout où une église est organisée. Dans chaque ville où nous avons une église, il doit y avoir un endroit où des traitements peuvent être donnés. Mais peu de membres possèdent des maisons offrant des facilités pour soigner les malades. C'est pourquoi il faut trouver un édifice à cet effet. Celui-ci, même s'il n'est pas élégant, devrait posséder les commodités nécessaires pour que l'on puisse y donner de simples traitements. L'œuvre médicale missionnaire devrait faire partie des activités de chaque église. Conduite indépendamment, elle serait bientôt un étrange amalgame d'atomes désorganisés, qui consommerait mais ne produirait pas. Au lieu d'agir comme la main de Dieu pour diffuser la vérité, elle saperait la vie et la force de l'Église et affaiblirait le message. Non seulement elle absorberait nos moyens et nos talents, qui sont nécessaires ailleurs, mais dans l'œuvre même qui consiste à venir en aide aux déshérités, en dehors de la parole, elle amènerait les hommes à tourner en dérision les vérités bibliques. Le ministère médical missionnaire dans la crise finale. Mon cœur est attristé lorsque je vois nos églises qui devraient être de cœur et d'âme engagées dans l'œuvre médicale missionnaire. Je désire vous dire que bientôt, on ne pourra plus rien faire dans notre œuvre si ce n'est le travail médical missionnaire. L'œuvre d'un pasteur est de remplir son ministère. Nos prédicateurs doivent travailler selon le plan évangélique. Vous n'exercerez jamais un ministère selon l'ordre évangélique si vous ne manifestez pas de l'intérêt pour l'œuvre médicale missionnaire, l'évangile de la guérison, qui bénit et fortifie. Montons au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel contre la puissance des ténèbres, afin qu'on ne dise pas à notre sujet « Maudissez Méro, maudissez ses habitants, car ils ne varent pas au secours de l'Éternel. » Juges 5, verset 23. Générale Conférence, Bulletin.